Xavier Lurper au micro de Radio PFM en ce mercredi 19 mai, hein, c'est ça, huitième jour.
La notion du temps et du repère spatio-temporel.
Oui, huitième jour du festival. Alors, quand on travaille, quand on est chroniqueur pour Canal+, on travaille pour Ciné Live, comment s'organise une journée pour toi au festival? Ça commence à quelle heure? Ça se termine à quelle heure?
Alors, je suis désolé, je m'excuse auprès des auditeurs, je vais casser le mythe d'un Cannes, d'un festival de Cannes glamourissime, avec soirée extraordinaire. Ça commence très tôt. Alors, ça commence à 5h30, très exactement en ce moment, puisque je prends l'antenne à 7h20. Et que le principe de la télévision, c'est de toujours tout faire au dernier moment. Je vous raconte un peu ma vie, hein, les coulisses de l'émission. Donc c'est très agréable, et c'est vrai que c'est des conditions du direct. Donc c'est au dernier moment qu'on vérifie les images, vérifie que les bandes annonces sont bien dans les serveurs pour être diffusées. Donc c'est pour ça que je me lève très tôt en fait, de manière à pouvoir éventuellement gérer un problème de dernière minute, même si moi je suis à distance. Mais si vraiment il manque une image, une bande annonce, ou si on n'a pas tout à fait un matériel optimal à la diffusion, que je puisse réécrire ma chronique. Donc après, je me lève, je me douche, ça oui, j'essaie de ne pas l'oublier. Je vais acheter la presse. Alors là, bizarrement, à Cannes, on va quand même là aussi dénoncer un tout petit peu. Il y a un kiosque ouvert à Cannes à l'heure, vers 6h30 du matin. C'est à la gare, donc je suis obligé de passer à la gare. Je m'assois dans un café, je lis un peu les grands titres. C'est vrai que j'achète l'Humanité, Le Monde, Libération. Et aujourd'hui en France, pour avoir un panel un tout petit peu de ce qui s'est pensé, de ce qui s'est dit, j'essaie de choper éventuellement une petite phrase dans les interviews, dans les conférences de presse. J'ai mon direct. Et puis après, nous avons donc à 8h30 la première projection de presse. Et j'essaye d'enquiller 4-5 films dans la journée en fonction.
4-5 films, ouais, quand même.
Voilà, absolument, parce qu'il y a beaucoup de sélections, il y a beaucoup de découvertes, il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir. Donc voilà, et puis en fin de journée, eh ben, c'est limite camomille, dodo, 10h30, minuit, grand maximum. Quoi. Voilà. Donc on oublie les fêtes, on oublie les grandes soirées. C'est un peu monacal, c'est vrai, mais je préfère ça plutôt que de lutter contre le sommeil pendant les projections ou pas profiter des films parce que je serai crevé et claqué. On l'est de toute manière, hein, on n'est pas des films. Voilà, donc je suis avec ma petite vitamine C dans mon sac. Mais c'est très agréable parce que moi je suis là pour ça, j'aime le cinéma, enfin c'est une passion et on ne l'assouvit merveilleusement que dans les festivals.
Et ça fait combien d'années que tu viens à Cannes?
Ça fait 10 ans à peu près, je n'ai pas très bien calculé.
Et ton premier souvenir de la première année, de l'image que tu t'en faisais avant de venir ici, et la première année que tu arrives à Cannes, est-ce que tu as un souvenir très marquant de cette première fois?
Est-ce que j'ai un souvenir très marquant? J'aurais pas imaginé du tout avant Cannes une telle complexité d'organisation. C'est-à-dire que moi j'étais très naïf, je pensais que ça se déroulait beaucoup plus facilement que ça. Je n'imaginais pas une ville qui se quadrille et se recadrille à toute la journée. C'est-à-dire que le chemin que vous empruntiez à 6h, vous ne l'empruntez plus à 9h parce qu'il est barré, encore moins à 13h parce qu'il y a une voiture officielle qui veut passer, surtout pas à 19h parce qu'il y a la montée des marches, alors que là subitement le quartier est complètement saturé de CRS. Donc c'est vrai que c'est un festival où il faut constamment réinventer son planning, réinventer son parcours, réinventer ce qu'on va faire dans la journée. Et mine de rien, c'est assez fatigant. Voilà. Alors c'est vraiment le premier souvenir. C'est que moi, je pensais que ça allait être très simple, on allait rentrer, on allait voir les films et tout ça. Et je pensais pas qu'il y aurait à ce point, et c'est vraiment le seul grand festival international qui possède cette caractéristique-là, c'est à ce point être bouffé par la logistique, une logistique extrêmement compliquée, avec une hiérarchie très violente. Je trouve des accréditations et des badges. J'ai du mal à comprendre ce principe pyramidal qui fait qu'il y a des gens au sommet, des gens un peu moins au sommet, des gens pas du tout au sommet. C'est quand même très violent de savoir qu'il y a une accréditation de presse qui est dite jaune, vraiment le bas de l'échelle, par exemple.
J'ai moi, d'ailleurs.
Et voilà, ce qui est scandaleux, c'est que vous arrivez à voir le film de 8h30, mais il est rare que le film de 19h30 en projection de presse. Voilà. Et je trouve ça ignoble, vraiment, de voir des gens qui font la queue et qui font de la participation amicale, hein, comme on dit au cinéma dans les génériques. C'est-à-dire que vous êtes là en gros pour ne pas monter, pour ne pas rentrer. Et je trouve que là, il y a un vrai souci. C'est-à-dire que tout directeur ou tout délégué général de festival, voyant qu'une grande partie de la presse accréditée ne peut pas rentrer, devrait se poser les vraies questions, savoir comment faire pour que ces gens-là puissent voir les films et sacrifier peut-être l'événementiel à ceux que la passion du cinéma anime vraiment. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, dès la première année, m'a vraiment choqué.
Est-ce que Cannes, c'était un truc dont tu rêvais en tant que critique, amoureux du cinéma? Tu rêvais de quoi? De quelle rencontre à Cannes? Est-ce que tu l'as réalisée, cette rencontre? Ou est-ce qu'elle est encore en devenir? Qu'est-ce que tu attends, toi, quand tu viens à Cannes?
Ben, c'est vrai qu'on attend, on attend ce que j'obtiens quand même régulièrement chaque année. Alors il y a des bonnes et des mauvaises années, ça c'est évident. Mais j'obtiens de voir beaucoup de choses, de voir beaucoup de films, mais sans doute des choses qu'on ne verra peut-être pas, parce que les lois de la distribution en France et un peu partout dans le monde sont telles que il y a évidemment des formats qu'on ne peut plus distribuer, des films passionnants mais qui durent trop longtemps, qui sont sans doute trop austères, trop autoristes, pour être entre guillemets distribuable sans que le pauvre distributeur il laisse sa chemise, ses enfants et son code de vie. Donc voilà, Cannes, c'est quand même, comme tous les grands festivals, un endroit où tu peux voir ça, où il est permis de voir ça. Et à ce niveau-là, les promesses sont toujours tenues. Alors évidemment, il y a des très bonnes années, comme l'année dernière, il y a des moins bonnes années, comme a priori celle-ci est en train de se dessiner. Mais voilà, moi je suis déjà dans le quantitatif et le qualitatif finit toujours à un moment ou à un autre par arriver. Mmh. Donc ça c'est... Voilà. Est-ce qu'il reste un moment... Non, parce que je ne rêve pas de ce qui fait rêver Cannes. À Cannes, je veux dire. C'est-à-dire que la montée des marches, j'en veux surtout pas. J'ai pas envie de perdre 2 heures à m'empingouiner avec un nœud papillon pour monter des marches dans la différence générale et sous les hurrahs et entre 3 CRS. Je vois pas très bien l'intérêt de la chose. Donc, c'est vrai que Cannes, je le démystifie d'emblée comme le prenant comme n'importe quel festival international.
Pierre Berlin. Mais il n'y a pas un cinéaste que tu rêverais, ou que tu as peut-être déjà rencontré, enfin que tu voulais rencontrer à tout prix, dont tu adores le cinéma, quoi qu'il fasse.
Non, parce que j'ai la chance de pouvoir les rencontrer en dehors. Alors après, il y a eu des rencontres, effectivement, à Cannes, qui prennent tout de suite, immédiatement, parce que l'endroit est mythique, une dimension un peu plus extraordinaire et exceptionnelle. C'est vrai qu'il y a 3-4 ans, je ne sais plus très bien l'année, j'ai eu la chance d'interviewer Youssef Chahine, immense cinéaste égyptien, à Cannes, dans sa chambre d'hôtel. Alors c'est vrai que Cannes, on les interviewe mal, on les interviewe vite, on les interviewe sur la fatigue, la leur comme la nôtre. C'était pour son avant-dernier film, j'ai dit une bêtise, pardon, et qu'un film qui faisait polémique parce que c'était un film sur le rapport entre l'Égypte et l'Amérique, la fascination d'un jeune garçon à une époque où les tensions étaient encore très très vives entre le Moyen-Orient et l'Amérique, et où il faisait parler tout le monde arabe, y compris les Américains. Donc il y a une espèce de début de polémique. Connaissant le monsieur, c'était tellement idiot de lui prêter une intention quelconque à ce niveau-là. Que, voilà. Et c'est un très joli souvenir parce que on avait donc, j'allais parquer, le mot est un peu fort, mais en tout cas, ouais, Youssef Chahine était dans une espèce de demi-chambre, dans un hôtel certes de luxe, mais vraiment un 17 mètres carrés à tout casser, dans lequel vous vous preniez les pieds dans le lit. Et on a fait une interview où il a été, comme toujours, charmant, séducteur, roublard, avec une malice dans l'œil et une intelligence dans le verbe qui était extraordinaire, dans un français impeccable. Voilà. Alors ça, c'est drôle parce que il y avait un décalage entre, habituellement, quand on les rencontre dans des endroits un peu préparés pour les interviews. Et là, de le faire dans sa chambre avec sa valise ouverte, Bobonne qui était en train de faire du tricot sur le lit, Chahine qui, à un moment ou un autre, vous séduit, parce qu'il séduit des garçons comme filles, vous pose la main sur l'épaule. Et voilà. Et la conclusion, la très belle conclusion, parce que moi, la polémique m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de questionner ce monsieur sur le cinéma qu'il faisait depuis des années à l'époque et pour lequel j'avais une immense admiration. Donc on parle de tout ça et il m'a fait sans doute le plus joli compliment, en tout cas celui que je garderai le plus longtemps possible en tête. En partant, il m'a dit je t'aime bien toi parce qu'avec toi on a parlé cinéma. Et ça, voilà,
ben, c'est un compliment effectivement.
Voilà, pour moi c'est un compliment, ouais. Et c'était indispensable, puisque c'est la seule et unique fois que j'ai rencontré ce monsieur que j'aimais tant, de lui dire combien il était un cinéaste d'une inspiration et d'une multitude d'inspirations assez extraordinaires. Il était à lui seul, j'allais dire, une métaphore, une utopie d'un cinéma et d'un monde dans lequel vraiment tout se mélange, les cultures, les langues, les genres, les styles. Voilà, il était capable de faire du cinéma très autoriste ou du cinéma très grandement populaire avec quelque chose de folklorique, de virtuose. Et voilà. Donc voilà, peut-être c'est le plus beau souvenir de Cannes parce qu'il y a un moment où, dans l'excitation, dans l'énervement, il se passe aussi quelque chose.
Mmh. Et quand on voit des films comme ça tous les jours, qu'on critique, qu'on a une émission régulière, qu'on croise ses collègues sans arrêt, qui ne sont pas du tout de la même école, Est-ce qu'il reste encore, enfin, parce que moi je vous vois, dès que vous sortez de salle, vous parlez tous, vous arrivez à en parler, je suis hyper fascinée et je me dis, mais comment ils arrivent encore, enfin, à parler tout de suite du film, à savoir ce qu'ils en ont pensé. Est-ce qu'il y a des moments, des films qui vous laissent sans voix quand même?
Et il y a deux choses qu'il faut savoir. Oui, ouais, pardon.
Et est-ce que tu as de souvenirs comme ça de films qui te demandent de décanter? Mmh. Ou...
Le plus beau souvenir, j'ai dit plus beau parce que ça s'est bien terminé, j'ai au matin fini par comprendre que j'aimais énormément le film, c'était le film de James Gray, Two Lovers, il y a 2-3 ans, qui avait été un bordel sans nom, parce que Cannes aussi, de temps en temps, c'est le bordel sans nom. Donc on a fini par voir le film en ayant fait 3 fois la queue dans trois salles différentes à 11h30. Donc je sors de là, je remonte à 1h du matin jusqu'à l'appartement que je louais, avec toujours quand même l'idée de me dire, faut que tu dormes 3h, parce que le matin à 6h, le réveil va sonner. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'arrivais pas à savoir ce que je pensais du film. Je ne savais pas comment le prendre. Et au matin, je me suis réveillé, le film avait décanté. Je ne sais pas pourquoi. J'avais dit ou rêver ou être inspiré. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et le film s'est magnifiquement éclairci, éclairé, mis en place. Ça, c'est un beau moment. Là, l'exemple même, c'est que vous m'auriez demandé ce que j'en pensais en sortant de ça. J'aurais été dans l'incapacité. Alors, j'aurais voulu évidemment faire mon malin et j'aurais certainement trouvé quelque chose à dire parce que le silence me fait très peur, vous pouvez remarquer. Mais au lendemain matin, ben voilà, le film avait décanté. J'avais tiré une ficelle qui n'était peut-être pas la bonne, hein, je veux dire, en termes objectifs. Peut-être que ce n'était pas ce qu'il voulait faire. J'ai eu de la chance, c'était ce qu'il voulait faire. Mais je n'avais pas d'éléments probants pour le attester. Et c'est vrai que ça, c'est merveilleux parce que c'est une espèce comme ça de moment où les choses se sont décantées, les choses ont pris leur place. Et alors, sur le moment, on n'a pas passé un bon moment. Mais le film a travaillé, et ça, c'est agréable. Sinon, effectivement, c'est le lieu des confrontations. Il faut tout de suite avoir une idée. Généralement, elle est très, voire trop radicale. C'est le danger de Cannes.
C'est ça qui m'étonne à chaque fois, c'est de voir.
On n'a pas le droit à la réserve, on n'a pas le droit à la nuance. Personne ne vous écoute. C'est-à-dire que vous dites, moi, j'aime bien, mais ils ont entendu, j'aime bien. Ou si vous dites, j'aime pas beaucoup, mais ils ont entendu, j'aime pas beaucoup. Donc, voilà. C'est, ah, Xavier, il n'a pas aimé ça, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est malade, il est pas bien. Voilà. On n'est absolument pas dans l'art de la nuance. On veut immédiatement ranger ici, hein, vraiment. En particulier les films dans la catégorie chef-d'œuvre ou oubliable. Cette année, on atteste, il y a beaucoup de films moyens, malades, comme dirait Truffaut, qu'il faudra réhabiliter parce que je trouve que le sort qu'il leur est fait de les jeter comme ça, de les repousser, est terriblement injuste. Donc c'est violent. Alors c'est un sport auquel on participe. Hein. Je vais pas faire mon philosophe sur ma montagne à regarder tout ce bas monde s'ébrouer dans la médiocrité de la pensée. J'en participe, je dis des conneries, je suis radical, je m'emporte, j'adhère, je m'enthousiasme. Je suis le premier à jouer à jouer là parce qu'il est en même temps assez amusant. Mais c'est vrai qu'après... Alors l'exercice de faire de la télé qui évidemment est dans l'urgence m'oblige quand même à poser, quand je commence à prendre des notes pour préparer ma chronique, à poser un tout petit peu mon argumentation, à essayer de mesurer. Et là, c'est un exercice agréable parce qu'il faut tout de suite travailler sur quelque chose qui est encore chaud. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on voit des films à Paris, parce qu'il nous arrive d'écrire 15 jours, 3 semaines après l'avoir vu. Donc là, il y a un côté battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc tout vous revient en mémoire. Il faut trouver des directions. C'est encore un autre exercice qui est vraiment déterminé par Cannes.
Ton impression, t'en as déjà un peu parlé de cette année ici à Cannes, et est-ce qu'il y a déjà un film qui pour toi ressort? Bon, il reste encore
3-4 enfin, événements, ouais. Enfin, entre guillemets. Il y a d'ores et déjà un film qui s'affirme parce que on a vu beaucoup de grands noms du cinéma livrer des films, je dirais, un peu mineurs, pas désagréables, mais mineurs. Je pense à Mike Lee, par exemple. Un peu fragile, mais vraiment intéressant, comme Wong Chou-Hai avec Hanging Blues. Moi, le film, pour l'instant, qui vraiment, je trouve, a faire cohérence immédiate, c'est Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois, qui est vraiment un film. D'abord, c'est le seul film sur lequel on ne pouvait absolument rien pressentir, parce qu'il était très, très difficile de relier le thème des moines trappistes dans l'Algérie de la guerre civile dans les années 90 et Xavier Beauvois, qui n'avait jamais travaillé ce sujet-là. Donc, c'était le seul film, à mon sens, là encore, on peut se tromper, mais vraiment le seul film que je ne pouvais pas imaginer. On avait une photo, juste un résumé, on se disait, mon Dieu, qu'est-ce que Beauvois va pouvoir faire de ce truc-là? La seule chose qu'on craignait ou qu'on espérait, c'est que ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que l'ambition du sujet et son austérité apparente faisait qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour l'entre-deux, ce qui me faisait peur, parce que j'avais peur que le film, du coup, s'il avait quelques faiblesses, et il n'en a aucune, à mon sens. Il est absolument magistral et magnifique, à tout point de vue. Et il arrive, et c'est, je pense, l'apanage des grands cinéastes, sur un contexte historique très particulier, très précis, un fait divers avéré, à parler universellement de plein de choses, non seulement sur le contexte géopolitique ou religieux que le film englobe, mais sur l'univers l'universalité, c'est-à-dire la place de l'homme face à un dogme dans lequel il se reconnaît, ici la religion par exemple, face à l'idée du collectif, parce qu'il fait aussi partie d'un monastère qui est intégré dans un village musulman et qui participe à sa manière à la vie et à l'équilibre de ce village-là, donc c'est très très beau. Et puis vous avez le moment où l'homme, le libre arbitre, son angoisse, sa pulsion naturelle s'exerce ici quand la menace arrive et que ces hommes, ces prêtres sont obligés de se dire est-ce que j'ai peur, est-ce que je reste, voilà. Et je trouve que là il y a une triangulaire qu'il a magnifiquement filmé, jamais dans la théorie, toujours dans la suggestion. Les plans sont superbes, c'est un film voilà, qui a cette universalité du silence, j'allais dire, qu'il y a très très peu de dialogue, ou en tout cas rien d'explicatif, et qui me semble toucher des thèmes, encore une fois, afférents vraiment au sujet et au contexte qu'il évoque, mais aussi à des choses totalement transcendant totalement ce cadre-là. Et c'est pour moi vraiment la définition d'un grand film.